Voilà, bonjour frères et sœurs. Je voudrais vous inviter à faire une première lecture dans le livre de Néhémie au chapitre 2. Néhémie chapitre 2, s'il vous plaît. Et nous lirons, nous ferons la lecture à partir du verset 11. Néhémie chapitre 2, à partir du verset 11. Il est dit ceci: à mon arrivée à Jérusalem, j'y suis resté 3 jours. Puis je me suis levé pendant la nuit, accompagné de quelques hommes, sans avoir encore dévoilé à personne ce que mon Dieu m'avait mis à cœur de faire pour Jérusalem. Verset 16, les magistrats ignoraient où j'étais allé et ce que j'avais fait. Jusque-là, je n'avais rien dévoilé aux Juifs, ni aux prêtres, ni aux nobles, ni aux magistrats, ni à aucun de ceux qui exerçaient une responsabilité. Je leur ai alors dit: vous voyez vous-même le malheureux ou la malheureuse situation ou le malheureux état dans lequel nous nous trouvons. Jérusalem est en ruine et ses portes ont été réduites en cendres. Venez, reconstruisons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans le déshonneur. Puis je leur ai raconté comment la bonne main de mon Dieu était reposée sur moi et je leur ai rapporté les paroles que le roi m'avait adressées. Ils ont dit: levons-nous et mettons-nous au travail, ou levons-nous et bâtissons. Et ils se sont tous fortifiés dans cette bonne décision ou dans cette résolution. Voudrais-vous demander de faire une deuxième lecture dans le premier livre des rois au chapitre 18. Chapitre 18, le contexte montre qu'il y a donc une sécheresse depuis 3 ans et demi. Un roi 18. Verset 1er, il est dit ceci: bien des jours passèrent et au bout de 3 ans, la parole de l'Éternel fut adressée à Élie. Va te présenter devant Achab et je ferai tomber de la pluie sur le pays. Élie partit pour se présenter devant Achab. La famine était grande à Samarie. Amen. Amen. Lorsque nous lisons le chapitre 1er de Néhémie, nous voyons que ses frères qui sont arrivés, il questionne ses frères qui sont arrivés de Jérusalem. Et là, le constat est que, eh bien, la muraille de Jérusalem est détruite, il y a plein de brèches et il y a également les portes qui sont consumées. Réaction de Néhémie par rapport à cette situation, il va se tenir dans la prière. Et il va invoquer Dieu et il va demander à Dieu de toucher le cœur du roi pour que cette situation, eh bien, soit résolue. Dans la dernière lecture que nous avons faite, 1 roi chapitre 18, eh bien, il y a la famine sur le pays d'Israël en raison du fait que le peuple de Dieu s'est détourné de Dieu. Et Dieu voulait, au travers de ce temps de sécheresse, amener le cœur du peuple de Dieu à invoquer l'Éternel. Et nous voyons qu'au bout de 3 ans et demi, Dieu va donc s'adresser à Élie pour lui dire: va te présenter devant Akab parce que j'ai décidé aujourd'hui de faire tomber la pluie. Alléluia. Donc, Élie est le messager de Dieu pour amener la restauration du peuple de Dieu. Frères et sœurs, il y a 2000 ans, la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et dans ce que nous avons lu concernant le peuple d'Israël, il ne nous est pas rapporté que c'était le fait que Dieu ait envoyé Élie soit la conséquence du fait que le peuple de Dieu a compris et qu'ils se sont mobilisés dans la prière pour chercher la face de Dieu. Cependant, Dieu a décidé d'envoyer son serviteur pour faire grâce au peuple de Dieu. C'est pour ça que je vous parlais du Seigneur Jésus. La venue de Christ a été une décision de Dieu pour le salut de l'ensemble de l'humanité, non pas parce que nous méritions, mais parce que Dieu nous a tant aimés. Alléluia. Et frères et sœurs, lorsque nous regardons autour de nous et lorsque nous prêtons attention à ce qui se passe autour de nous, nous réalisons plus que jamais que notre pays est malade. Et non seulement notre pays, mais l'ensemble de la planète est malade. Et rien ne va plus. Ce sont des constats que nous faisons. Et il y a des efforts qui sont faits. Les scientifiques, les politiques, les responsables planétaires, les économistes, les climatologues, les écologiques, les associations ONG, toutes les bonnes volontés se mobilisent au chevet de la Terre et de l'humanité pour secourir, pour trouver des solutions. Et non seulement cela, mais il y a des actions qui sont mises en place, des projets, des innovations, des nouvelles technologies, des programmes sur plusieurs années, des recherches sont mises en place pour enrayer le mal. Mais hélas, force est de constater qu'on s'enfonce de plus en plus. C'est le constat qu'on fait. On réalise qu'il y a toujours les guerres ici ou là, les déplacements de population, les famines, les terrorismes, les meurtres, l'insécurité, la haine raciale, religieuse, culturelle, l'esclavage moderne, etc. Toutes ces choses foisonnent malgré les solutions qui sont apportées. Et même la nature réagit. On voit qu'il y a de plus en plus de tempêtes qui sont de plus en plus fortes et qui font de plus en plus de dégâts. Il y a des ouragans, il y a des tremblements de terre, il y a des tsunamis, il y a des éruptions volcaniques, il y a l'augmentation de la température, le niveau de la mer, et on pourrait encore en rajouter. Nous réalisons que la terre, le monde, l'humanité est vraiment au plus mal. Alors, qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? Je voudrais vous inviter, s'il vous plaît, à lire avec moi dans 2 Chroniques. Chapitre 7. Verset 11. De Chroniques, chapitre 7, verset 11, s'il vous plaît. Il nous est rapporté ceci. Lorsque Salomon eut terminé la maison de l'Éternel et le palais royal, et qu'il eût réussi à accomplir tout ce qu'il avait décidé de faire dans la maison de l'Éternel et dans sa propre maison. L'Éternel lui apparut pendant la nuit et lui dit, « J'exauce ta prière, et je choisis cet endroit comme le temple où l'on devra m'offrir, ou la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Quand je fermerai le ciel, et qu'il n'y aura pas de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de dévorer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple, celui sur lequel est invoqué mon nom, s'humilie, prie et me cherche, s'il renonce ou s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Amen. Frères et sœurs, je voudrais attirer notre attention sur le fait que la volonté de Dieu, c'est d'apporter la guérison. Nous avons lu tout à l'heure, le frère nous a lu Ésaïe 53, en ce qui concerne l'œuvre de Christ à la croix. Et nous savons qu'à la croix, notre Seigneur a tout accompli. Tout accompli. Son sacrifice est le remède à tout. Voilà. Mais comment se fait-il que notre monde va de plus en plus mal? Et je ne pense pas que je vais vous dire quelque chose de nouveau, mais nous réalisons que tout ce mal que nous voyons autour de nous est là une origine. Quand vous allez chez le médecin, que vous avez de la fièvre, il va chercher à savoir quelle est l'origine du mal. Bien qu'il peut juste vous donner un doliprane et puis voilà, ça va apaiser, mais ça ne guérit pas. Frères et sœurs, les solutions humaines, voilà, ne guérissent pas. Ils apaisent, ils atténuent, mais ils ne guérissent pas. Parce que on ne soigne pas la chose, le mal qui se trouve à l'origine. Et l'origine du mal vient du cœur de l'homme. Voyez ? Je dirai pour vous, Marc chapitre 7, verset 21, il dit, « C'est du dedans, du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, c'est-à-dire la convoitise, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses sortent du dedans et souillent l'homme. » C'est donc au cœur de l'homme qu'il faut agir pour que notre planète soit guérie. Et frères et sœurs, l'Église, les chrétiens que nous sommes, nous avons une part de responsabilité dans ce projet de Dieu. Parce que je crois que quelque part, frères et sœurs, nous avons une part de responsabilité dans ce qui se passe, frères. Vous voyez? Et c'est pour cela que Deux Chroniques dit ceci, « Quand vous verrez toutes ces choses, j'appelle mon peuple à s'humilier, à prier, à chercher ma face et à se détourner de ses mauvaises voies. » Et si le peuple de Dieu, si l'enfant de Dieu s'engage dans cette démarche, Dieu fait la promesse de nous pardonner et de guérir le pays. Alléluia. La guérison de notre pays passe donc par l'Église que nous sommes. Passe par chaque enfant de Dieu que nous sommes, frères et sœurs. Et c'est vrai que la parole de Dieu, quand il nous parle du cœur de l'homme, ce qu'il demande au cœur de l'homme, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toutes ses pensées. Hein? D'aimer Dieu et d'aimer son prochain. Quand on aime Dieu, quand on a une relation en communion avec notre Dieu, forcément, il y a changement dans notre relation avec notre entourage. Il y a des conséquences pour l'environnement qui est autour de nous. Alléluia. Hein? Et la Bible nous dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Qu'y a-t-il d'abondant dans notre cœur, frères et sœurs? Chacun devra répondre, frères et sœurs, mais je crois qu'en cela, il faut être sincère avec Dieu. Et Jérémie 17 dit ceci, « Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, et il est incurable. Qui peut le connaître ?» Et le Seigneur le dit, « Moi, l'Éternel, je sonde le cœur, j'examine les reins pour traiter chacun conformément à sa conduite et au fruit de ses agissements. » Alléluia. Frères et sœurs, il n'y a que Dieu qui puisse agir et intervenir pour la guérison de notre nation, pour la guérison de cette ville, pour la guérison de ce département, pour la guérison de cette région, pour la guérison de la France et au-delà, frères et sœurs. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, frères et sœurs, c'est du cœur de l'homme que viendra les solutions dans la mesure où ce cœur a été régénéré. Parce que le cœur de l'homme, il est égoïste, il est rebelle, etc., etc. Nous avons lu tout à l'heure que toutes les mauvaises choses prennent naissance dans le cœur de l'homme. Mais la Bible nous dit que lorsque le cœur de l'homme vient au contact de la parole de Dieu, la Bible nous dit qu'il est régénéré, il est restauré. Alléluia. Et parce que c'est la volonté de Dieu. De Corinthiens chapitre 5, on va lire. Hein? C'est des passages que nous connaissons, frères et sœurs, mais... De Corinthiens chapitre 5. Verset 17. De Corinthiens chapitre 5, verset 17. Il dit ceci, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Alléluia. Si quelqu'un est en Christ, lorsqu'un homme, une femme, un enfant, un adolescent, un jeune vient à faire cette rencontre personnelle avec Dieu, il y a un changement, une transformation qui s'opère. Il devient une nouvelle création et les choses anciennes sont passées. Maintenant, les choses deviennent nouvelles. Alléluia. Voilà le programme de Dieu. Changer les vies, changer les cœurs. Mais pour que les cœurs et les vies soient changés, il faut que ces cœurs, ces vies viennent au contact de la parole. Mais comment viendront-ils si nul n'est envoyé? priait le Seigneur de dire à Élie, « Va te présenter devant Acab parce qu'aujourd'hui, j'ai décidé d'envoyer la pluie. » Alléluia. Frères et sœurs, nous sommes dans le temps de Dieu, où Dieu a choisi dans sa souveraineté de faire grâce aux hommes, de leur accorder sa miséricorde. Et notre Seigneur a ouvert ce temps il y a 2000 ans. Et il l'a ouvert par son sacrifice à la croix. Nous sommes encore dans ce temps où Dieu dit, va te présenter devant les hommes, parce qu'aujourd'hui je veux bénir, parce qu'aujourd'hui je veux guérir, libérer, délivrer, restaurer, relever, réconcilier. Et dans cette lecture que nous avons faite, il nous est dit ceci, verset 18, que tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Frères et sœurs, nous avons tous le ministère de la réconciliation. Ce n'est pas seulement le pasteur, le prédicateur, les anciens, ceux qui servent Dieu, mais c'est la responsabilité de tous. Tu es responsable. Et le Seigneur de dire, en effet, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même et ne chargeant plus les hommes de leurs fautes, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Alléluia. Nous avons la parole de la réconciliation. Et lorsque les hommes et les femmes entendent cette parole, il n'y a pas d'autre effet que celui de les amener à se réconcilier avec Dieu. Alléluia. Oui, nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Alléluia. Oui, Dieu a la volonté et il l'a exprimé avec force, avec puissance à la croix. Voilà. Et Christ fut le premier missionnaire pour venir nous parler du plan et du projet de Dieu et accomplir le seul acte à la croix qui pouvait nous libérer, nous délivrer. Alléluia. Frères et sœurs, la volonté de Dieu, c'est que l'Église se mette dans les conditions pour que lui agisse et intervienne. Maintenant, notre responsabilité, ta responsabilité, mon frère, ma sœur, c'est quelle est ta réponse? Je ne vous annonce pas quelque chose de nouveau, de nouvelle, frères et sœurs. Je vous annonce une chose que nous connaissons tous. Dieu veut guérir notre quartier. Dieu veut apporter la guérison dans notre famille. Dieu veut apporter la guérison dans cette ville de Toulouse, dans le département de la Haute-Garonne, dans cette région Midi-Pyrénées, dans la France, mais au-delà même, sur la terre entière. Alléluia. Et je voudrais, au travers de cette exhortation, frères et sœurs, nous amener à réaliser que la solution pour le monde, nous l'avons. Dieu l'a mis entre nos mains et nous sommes responsables devant Dieu et devant les hommes par rapport à cette mission. Dieu appelle donc l'Église à prendre les dispositions qu'il faut pour que lui, il intervienne. Je vais le lire pour vous, frères et sœurs, dans le livre d'Esdras, chapitre 1er, je vais le lire. La première année du règne de Cyrus, roi de Perse, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie. Dieu va intervenir dans la vie d'un haut responsable pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Et il emploie ici le terme « réveiller l'esprit ». Je ne sais pas dans votre Bible comment c'est écrit. C'est la même chose? Oui. Verset 5, il dit ceci. Et il va donc, je vais le lire. Voici ce que dit Cyrus, roi de Perse. « L'Éternel, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre et m'a désigné pour lui construire un temple à Jérusalem en Juda. Qui parmi vous fait partie de son peuple? Que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem, en Juda, pour reconstruire la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est lui, le Dieu qui réside à Jérusalem. Partout où s'est installé le reste du peuple de l'Éternel, les habitants de l'endroit lui donneront de l'argent, de l'or, du matériel et du bétail avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu à Jérusalem. » Et il dit ceci, verset 5, « Les chefs de famille, des familles de Juda et de Benjamin, les prêtres ou les sacrificateurs et les lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit, se levèrent pour aller reconstruire la maison de l'Éternel à Jérusalem. » Alléluia. Tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit. C'est vrai que parfois, quand on est fatigué, si on nous réveille, on n'a pas envie de se réveiller. Voilà. On ne peut pas obliger quelqu'un à se réveiller. Voilà. Quand il n'a pas envie de se réveiller, il est fatigué, il continue de dormir. Voilà. Mais par contre, la volonté de Dieu, frères et sœurs, c'est de nous réveiller. Parce que la solution pour le monde, c'est le réveil au milieu du peuple de Dieu. Alléluia. Mais pour que le réveil se fasse, il faut que nous, nous mettions les conditions pour que ce réveil se fasse. Et le Seigneur de dire, si mon peuple s'humilie. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps sur s'humilier, prier, chercher Dieu, peut-être à un autre moment, mais on va balayer rapidement. Mais la Bible nous dit que le Seigneur lui-même s'est humilié. Alors que lui, il n'est pas fautif. Mais il s'est humilié. Il a quitté son ciel de gloire. Et il a appris les choses, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Alors, frères et sœurs, sentons-nous concernés. Si notre Seigneur a pris ce chemin avant nous, il peut nous communiquer aussi la volonté de vivre ce chemin. S'humilier, c'est aussi se sentir concerné par la situation. Vous sentez-vous concerné? Nous devrions, frères et sœurs. Ah oui, mes frères, je ne peux plus faire grand-chose, moi. Prier, c'est à la portée de tous. Ouais. Sentir sa responsabilité. Néhémie, quand il a entendu l'état de Jérusalem, il s'est senti concerné. Et la Bible nous dit qu'il a confessé ses péchés, les péchés du peuple, et il a demandé l'intervention de Dieu. Non pas parce qu'il a forcément tort, mais il s'est senti concerné par la situation de Jérusalem. Et je voudrais, frères et sœurs, que nous soyons animés de cet esprit. Lorsqu'on est dans cet état de cœur, eh bien, nous pouvons prier. Prier, c'est rétablir la relation avec Dieu. Et il faut la rétablir de la bonne manière. Et lorsqu'on regarde Esdras, pour construire le temple, la première des choses qu'ils ont faites, c'est qu'ils ont rétabli l'autel des sacrifices. Cela nous parle de la croix. Lorsque Néhémie a rebâti, fait rebâtir la muraille de Jérusalem, ils ont commencé par la porte des brebis. Cela nous parle encore de la croix. Jésus a dit, je suis la porte. Alors je voudrais nous encourager, frères et sœurs, à rétablir dans nos vies à chacun l'autel sur ses fondements. Bien sûr, vous pouvez dire, frères et sœurs, que oui, j'ai pris. Ouais. Mais peut-être de nous engager à prendre un peu plus de temps. Pas prier pour prier, mais vraiment, nous voulons entrer en contact avec notre Dieu. Et il va dire ceci, cherchez Dieu. Quand on cherche Dieu, c'est pour soi-même, nous l'avons entendu tout à l'heure. Avant tout pour soi-même. Nous voulons voir Dieu se manifester dans notre vie. Nous voulons voir la parole de Dieu devenir réalité dans notre propre vie. Alors, lorsque nous sommes dans cette disposition, eh bien, nous sommes en train de nous consacrer. Bien souvent, on parle de la sanctification. Mais c'est ça, la sanctification. Chercher Dieu. Lorsqu'on cherche Dieu, Dieu nous éclaire, amène à la lumière les choses qui sont cachées dans notre cœur, dans notre vie, et nous amène à les confesser, à les délaisser pour obtenir miséricorde. Et il dit à se détourner, et si le peuple se détourne de ses mauvaises voies. Frères et sœurs, je n'ai pas de doute en ce qui nous concerne, en ce qui concerne l'église de Sainte-Agne, qu'ici on est bien enseigné, bien instruit, bien nourri, etc. Mais je suis certain d'une chose, si avec l'enseignement et l'instruction que nous recevons, nous nous mettons à chercher Dieu, Dieu va amener à la lumière dans notre cœur des choses peut-être que nous n'imaginons pas ou peut-être qu'on a passé par-dessus, oh, c'est pas grave, etc. Pour nous amener à corriger notre conduite et à nous aligner sur la parole de Dieu, à nous sanctifier et à nous mettre à part pour notre Dieu. Lorsque l'Église, lorsque le peuple de Dieu, lorsque l'enfant de Dieu, frères et sœurs, se met dans ces conditions, eh bien, le Seigneur dit, je pardonnerai son péché. Alléluia. Amen. Mais le pardon de Dieu sur notre vie a des conséquences dans notre entourage. Puisqu'il dit, je guérirai son pays. Alléluia. Un retour total à Dieu amène le réveil. Et le réveil amène la guérison dans le pays, dans le cœur des hommes, dans le cœur des responsables. Et je terminerai en disant ceci, ou plutôt en posant une question. Dans le livre d'Esdras, tout à l'heure nous l'avons lu, que Dieu a réveillé l'esprit de Cyrus pour qu'il accomplisse sa volonté. Et puis, parmi le peuple, ne se levèrent que ceux dont Dieu a réveillé l'esprit. Non pas que Dieu n'a pas voulu réveiller tout le monde, mais c'est ceux qui ont accepté de se réveiller. De prendre conscience, de se sentir concerné. Voulons-nous nous réveiller? Et dans le livre d'Esdras, il s'est dit ceci, qu'ils se rassemblèrent comme un seul homme. Ça nous parle de cette unité. Lorsque l'Église se met en condition, il y a une unité dans l'action de l'Église. Il n'y a pas la cacophonie. Dans le livre de Néhémie, nous voyons qu'il a fait un constat. Mais la Bible nous dit également que lorsqu'il a exposé cela et qu'il a invité, et je crois que Dieu nous invite à nous lever pour bâtir, pour construire, eh bien, il dit, ils se fortifièrent dans cette décision. Et le fait qu'ils se fortifièrent dans cette décision, dans cette résolution, malgré les attaques de l'ennemi, ils sont allés jusqu'au bout du projet. Oui, il y aura des embûches. Oui, il y aura des épreuves. Oui, il y aura des découragements. Mais Dieu a fait la promesse. d'être avec nous tous les jours. Et dans la réaction de Néhémie par rapport à ceux qui disent, qui sont venus à l'attaque, il dit, c'est à nous que ça appartient de construire, et nous seuls. Pas de compromis, frères et sœurs, s'il vous plaît. Parce que c'est par les compromis que l'ennemi entre par la brèche. Ézéchiel 22, s'il vous plaît. Ézéchiel 22. Verset 30, il est dit ceci. Je cherche parmi eux. C'est Dieu qui dit. Je cherche parmi eux. Et je crois que Dieu nous dit également ce matin qu'il cherche parmi nous. Quelqu'un, un homme, une femme, un enfant, un adulte, qui se lève pour construire un mur, qui se tienne à la brèche devant Dieu, en faveur du pays, pour que Dieu ne le détruise pas. Mais il dit ce constat, mais je ne trouve pas. Frères et sœurs, Dieu cherche un homme. Un seul peut faire la différence. Alors, on ne va pas se regarder les uns les autres pour dire c'est qui parmi nous. Mais ce que je voulais dire, frères et sœurs, c'est que c'est une décision personnelle. Je ne vais pas regarder celui qui est à droite ou à gauche s'il a pris la décision ou il n'a pas pris. Ça me concerne. Veux-tu, voudrais-tu prendre cette décision de répondre à l'appel de Dieu pour la guérison de notre pays, pour la guérison de notre ville? Oui, nous prions, c'est vrai, mais il faut se mettre à l'œuvre également. Hein? Dieu a déjà fait ce qui est nécessaire à la croix et maintenant, il cherche des hommes. Comme il a dit à Élie, va te présenter. Qui voudra être le messager de Dieu? Bien sûr, on ne sera pas tous prédicateurs, mais on peut être témoin, simple témoin. Un simple témoin là où il se trouve peut faire la différence. Ésaïe entendra la voix de Dieu qui dit, « Qui enverrai-je ? » Il n'a pas dit, « Me voici, envoie les autres. » Mais il a dit, « Me voici, envoie-moi. » Il ne sait pas ce qu'il attend, mais il reconnaît la voix de Dieu. Et je crois que nous sommes suffisamment mature pour comprendre que Dieu s'adresse à chacun d'entre nous. Alléluia. Je ne sais pas ce que tu vas me demander, Seigneur, de faire, mais je veux me lever à ton appel. Je ne sais pas ce qui va m'attendre par rapport à cet engagement, mais je veux me lever pour ton appel. Parce que je crois que tu seras avec moi tous les jours. Parce que je crois que tu es celui qui veille sur ma vie. Tu es celui qui garde. Tu es celui, quand tu envoies, tu qualifies. Je ne sais pas faire. Je ne sais pas dire. Comme Moïse l'a dit. Mais le Seigneur a dit, n'est-ce pas moi qui ai créé la bouche, la langue? Alléluia. Je suis timide. Dieu peut changer le caractère. Alléluia. Te donner la force de rendre témoignage, mais à condition que nous voulons.